France Bleu RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour parler, présenter le spectacle Caminando qui fera donc l'ouverture des 32e musicales de Bastia. Caminando, c'est le fruit de l'amour et de la musique traditionnelle corse et argentine imaginée par Bertrand Cervera et puis un groupe, un trio qui a été rencontré en Argentine et à la voix, Léa Anton a pour la Corse un musicien classique, le violon solo de l'Orchestre National de France mais aussi le papa de Sorui Musica. Ils seront quelques-uns à être avec nous ce soir jusqu'à 18h entre leur balance, le stress et la préparation de cette grande soirée d'ouverture des musicales de Bastia puisque c'est ce soir à 20h30. Ne manquez sous aucun prétexte cette création et d'ailleurs nous allons tout faire pour vous donner envie ce soir avec même du live. Bonsoir Cécilia Cantelli. Comme à l'accoutumée, vous êtes descendue dans la rue pour demander à nos amis s'ils aimaient danser, danser le tango. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans l'émission. Bonsoir Michael Andréani. Bonsoir. Et puis bonsoir Marc-André à Castellani. Oh le mec, tiens, il s'exprime.
Oh, bonsoir.
Pierre-Antoine Berrette, y soyez le bienvenu.
Merci, bonsoir à
pour
tous.
Celles et ceux qui nous suivent toute la journée, vous étiez avec nous par téléphone il y a quelques temps, vous l'une des chevilles ouvrières du Festival Sorui Musica. Vous êtes encore là pour nous parler de Caminando, qui est un très joli projet, qui est né d'une rencontre, d'abord avec Richard Galliano, puisque Bertrand Cervera et Richard ont joué ensemble, et lors de leur pérégrination, ils ont rencontré ce groupe.
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, Bertrand qui est en train d'arriver de la balance va vous en dire sûrement plus que moi.
Ou mieux, surtout.
Mieux et plus. Ah, il est là. Je le sens arriver. J'entends son pas lourd. Donc, oui. Donc, c'est né. Je ne sais plus si c'est en Argentine ou en Chine, mais il va me le dire. D'une rencontre entre Bertrand, Richard Galliano et une équipe de musiciens. Dont notre ami Nicolas qui est là, Nicolas, Mariano et Pippi Piazzola. Et puis je crois que sur la magagne un petit peu, il leur a dit vous voulez venir en Corse. Et puis voilà, ils ont dit oui, on vient. Et voilà, et nous y sommes. Voilà,
et du coup, il y a ce projet, cette création qui est née. On demandera les détails donc tout à l'heure à Bertrand Cervera. Je vous propose d'écouter Charles Roque ou Mio Mouline, qui fait, je crois, partie. Pierre-Antoine, vous m'arrêtez si je dis des bêtises.
Oui, bien sûr, c'est ça. Mio Mouline, il se fait
bien sûr,
tout
Marie,
à fait
bravo,
partie.
De... Tout à fait. Comment vous êtes renseigné.
Tout à fait partie du tour de chant.
Oui.
Et c'est Léa qui Anton qui est à côté de moi, qui vient d'arriver aussi.
Bonsoir Léa, elle est là.
Bonsoir.
Qui l'interprète divinement bien. Voilà.
Allez, on écoute Charles Roque et puis on continue à parler de ce très beau spectacle.
Accanto au mio giardino, parlo di tant'anni fa. Mi ricordo d'un mulino che fecia che cantava. Ua dedo che passava, si piantava chiacchierando l'aiutava a macinare. O mio mulino, sapia così ben cantare, e sta canzona in me risona. Posso più scordare per una fata tutta bellata per me si metti a ballare nato cammino do mio amorino che non cessava di cantare ma lo fuoco ha stirpato e vorreste di guasto dello se siccato a rodare non gira più un burtone tutto aperto non si sente più cantare cosa si diventa dudu. I nui castagni sento i dalagni quanto face e ogni corso senza rimorso branca lo mare si ne va. Tristo destino, o mio mulino, un giorno in terra cascherà.
Pierre-Antoine, on se rend bien compte, vous qui avez écrit un livre sur... Souvenez-vous sur la musique et la chanson corse, que ce tango est bien présent chez nous, et ce depuis des années, surtout à un certain monsieur Marfiz, nous le devons.
Ouais, bah le tango, c'est ce que je disais en voiture en montant tout à l'heure avec notre ami Nicolas, on le sait ici, au départ ils étaient un petit peu étonnés, mais bon c'est une vraie passion, alors je sais pas, est-ce que c'est le bal de village, est-ce que c'est un petit peu la tristesse qui...
C'est la musique à danser, surtout.
La danser, mais ouais. Aussi le côté un peu mélancolique. Borges, il parlait de tango un peu pleureur, et je ne dis pas que les Corses sont pleureurs, mais il y a un côté un peu mélancolique qu'on retrouve. On en a parlé toute la matinée ce matin, et c'est vrai que bon, ça s'est fait naturellement. Hein. Et le tango, je pense que c'est une musique, c'est le pont direct pour moi, hein, entre l'Argentine et la Corse. Voilà.
Bertrand Cervera, bonsoir.
Bonsoir Marie.
Merci, trop cool d'être venu. Ah alors bah vous êtes oui, en pleine balance. Je vous en remercie parce que c'est ce soir à 20h30 hein, le spectacle.
On avait fait une balance rapide, hein, c'est vrai que...
Oui, non mais ça va aller, j'espère. Bertrand, cette rencontre, alors c'était en Argentine ou en Chine finalement?
Alors c'était en Argentine, en fait nous avions une tournée avec Richard Galliano au Brésil et en Amérique du Sud, et donc nous avions un concert à faire au Théâtre Colonne.
Qu'est-ce que vous jouiez à ce moment-là?
On jouait du tango, mais pas que, on jouait aussi un peu de jazz, un peu de la musique de Richard, donc c'était une sorte de mélange.
Est-ce que vous aviez joué de la musique classique aussi, hein, du Mozart ensemble?
Oui,
vous
avez fait plein de choses, et donc il y avait une sorte de mélange à São Paulo, on avait joué une sorte de mix entre de Mozart, on va dire de Bach même jusqu'à à Piazzolla. Et par contre, là, le concert, c'était un concert qui était consacré à la musique plutôt de Piazzolla, plutôt au tango. Et donc, on a rencontré trois musiciens là-bas. Donc, on est arrivé le matin à Buenos Aires. Et donc, le soir, nous avions le concert. On a fait toute une répétition l'après-midi. Et c'est vrai que le contact a été tout de suite très fort musicalement. Et puis après, même amicalement, vous savez, on sent les vibrations avec les gens. Et c'était tout de suite assez fort. Et donc, de là, on a fait une grande tournée en Chine, en Asie, tous ensemble. Et l'idée est venue, finalement, de pour moi de les faire venir ici, de créer quelque chose de nouveau, un son nouveau ensemble, et donc voilà, ça a été créé comme ça.
Donc la rencontre musicale s'est faite très vite, amicale relativement rapidement aussi. Ils viennent du jazz aussi, pas seulement du tango argentin.
Bien sûr, mais bon, au départ ce sont des musiciens parce que vous parliez de que j'étais musicien classique, oui je suis musicien classique, mais aussi ils ont fait leurs études classiques pour jouer du piano comme Nicolas. Il faut avoir fait des de solides études de base, et après...
C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vous enlever cette étiquette. Hein.
Je pense, en plus, non, mais c'est pas moi, forcément, c'est que quand on est musicien, on est musicien, là, on va peut-être en donner la preuve ce soir aussi, où tout se mélange. Et donc, c'est des instrumentistes à la base, musiciens, et en effet, c'est des spécialistes du tango et du jazz, voilà, particulièrement. Mmh. Et vous savez que le tango a une particularité, c'est qu'il a aussi une langue. Et quand on parle de porteños, les porteños, c'est les habitants de Buenos Aires qui parlent une langue. C'est comme de l'argot, enfin, on va dire. C'est pas un patois, hein, c'est un argot. Et s'ils veulent parler devant des hispanophones, ils vont absolument rien comprendre. Et donc ça, c'est le langage des gens qui jouent le tango.
D'accord.
Donc non seulement le tango, c'est de la musique, mais c'est aussi une histoire,
culture,
une culture. Alors peut-être qu'on y reviendra sur l'histoire du tango au départ et pourquoi la construction de ce spectacle. Mais voilà, c'est une langue, c'est une manière de vivre, c'est une manière de marcher presque, de se représenter. Voilà, qui vient de la musique, qui vient de la moquerie, qui vient de l'Afrique, qui vient de beaucoup de choses.
Quand on pense tango, on pense bandoneon, et pourtant au commencement, on entend que le violon était présent.
Le bandoneon n'est pas du tout l'instrument traditionnel du tango. L'instrument traditionnel au départ du tango, c'est le tambour. Peut-être que je peux vous raconter l'histoire du tango. Le tango, en fait, le mot tango représente l'endroit où on parquait et par la suite où on vendait les esclaves. Donc c'est une connotation très forte. Et dans cet endroit absolument immondissime, les hommes, pour oublier...
C'était où, sur les quais, ça, sur le port de Buenos Aires ou...
Non, c'est le mot qui représentait ça peut être...
Partout.
Un peu n'importe où, en fait, hein, dans toute l'Amérique du Sud, puisque l'esclavage a été important dans toute l'Amérique du Sud. Et donc, ces danses interprétées, entre guillemets, par les esclaves pour oublier leurs conditions, avec le son des tambours, et tapaient, ils n'avaient pas de tambour, ils tapaient sur ce qu'ils pouvaient. Et ce son-là, c'est le début du tango. Donc, ça, c'est l'Afrique. Donc, le son, il vient d'Afrique. Après, il y a la moquerie. C'est-à-dire que les Blancs, se moquer en dansant de façon exagérée, se moquer des esclaves. Alors, voilà, c'était une manière...
Du pastiché, allez.
Et voilà, en exagérant, parce que c'était provoquant, parce que c'était insolent, et donc voilà. Et en fait, finalement, l'un dans l'autre, les influences se sont mélangées, et de ces influences, de cette mixité, est né le tango. Voilà.
Avec la sensualité, avec l'idée aussi, dans la danse, de l'acte sexuel et tout ça, ça a bien, bien, bien
avancé. Oui, je vois que vous voulez en venir, Marie. mais en fait, oui, la sensualité, elle est venue. Alors,
on dansait souvent entre hommes.
D'homosexualité, voilà. Je savais que vous alliez me dire ça. Mais en fait, en Amérique du Sud, en Argentine, à cette époque-là, il y avait un déficit absolument terrible de femmes.
Ouais.
Donc les hommes dansaient entre eux. Et ils s'entraînaient entre eux pour le jour où ils allaient rencontrer la femme du port, et avec qui ils pourraient danser. Donc en fait, c'était surtout un entraînement. C'est pas tellement que les hommes dansaient entre eux, c'est que les hommes s'entraînaient
bien
ensemble.
Bien sûr.
Et
non, puis après, maintenant, dès que les portes des lupanars ouvraient, on pouvait enfin... Voilà.
Non, non, mais c'est assez... en fait, cette notion sexuée du tango, finalement, elle vient aussi de cette moquerie. Et donc, évidemment que c'est une musique qui est très sensuelle, mais pour moi, elle n'est pas sexuée. Enfin, dans le sens où ça serait rabaisser. C'est pas que l'acte sexuel est rabaissant, pas du tout, au contraire. Hein, je trouve ça particulièrement bien. Mais je préfère la sensualité dans cette musique-là. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que je...
C'est plus poétique.
Alors,
oui,
c'est la sexualité poétique. Plus triviale, plus vile. Donc,
voilà.
Non, mais dans l'esprit
du blanc qui se moque, en effet, à ce côté complètement. Il veut rabaisser le danseur au côté animal. La preuve, c'est que les esclaves, on les appelait, ils avaient des noms absolument terribles. C'était des animaux pour les blancs. Et ce qui est, je rajoute pour le côté historique, qui est, je trouve très intéressant et qui moi m'a énormément touché dans cette histoire-là, c'est que maintenant, quand on va en Argentine, il n'y a plus de noirs. Très peu de métis. Alors qu'au Brésil, par exemple, il y en a énormément. Enfin, c'est une société extrêmement mélangée.
Bien sûr.
Pourquoi ? Et c'est là que ça nous touche, nous, encore, c'est que tous ces gens étaient mis en première ligne dès qu'il y avait une guerre. Donc, il y avait des bataillons, ce n'était que des Noirs. Et donc, évidemment, c'est de la chair à canon, et ça nous rappelle un peu qu'on a pu vivre Catalans, les Corses, les Sénégalais, enfin les régiments sénégalais étaient en première ligne, donc c'était de la chair à canon. Donc, on retrouve quelque chose qui nous touche, nous, dans notre histoire. Voilà.
Comment faire le pont entre Buenos Aires et la Corse ? Vous y avez pensé par les tangos qu'on évoquait tout à l'heure avec Pierre-Antoine, et donc vous avez eu envie qu'il y ait une voix également dans ce projet.
On était obligé parce qu'elle nous a obligé à.
C'est elle, c'est Léa.
Moi, je voulais pas.
Vous avez supplié Bertrand. Racontez-nous la version, la vôtre,
terrible.
Léa.
Oui, non, je les ai menacés. Bon, après, ils ont eu peur un peu. Donc, voilà, je suis
arrivée. Comment arrive-t-elle dans le projet ?
Non, elle arrive que d'abord elle a une voix absolument magnifique, cristalline, belle,
pure.
Voilà, et donc c'était la première chose, parce que dans une rencontre comme ça, il y a d'abord le côté musical, et ça, enfin pour moi c'est important. Il faut trouver une vibration et un écho dans ce qu'on a envie de faire. Et puis en plus, dans cet arc méditerranéen qu'on imaginait avec Pierre-Antoine, cette rencontre, ce voyage, ce côté exil, retour, partir, le port, Porteño, qui n'a rien à voir avec le port, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le... Mais tout ce langage qui est particulier à nous tous, ce mélange, j'avais envie de le retrouver dans la musique. Donc, on part des tambours, on va jusqu'à la musique dite traditionnelle, au chant, à Charles Roque, à des chansons qui nous sont... profondément, qui nous touchent profondément, parce qu'elles nous viennent de quelque chose de profond en nous. Et voilà, et de retrouver ce mélange et d'arriver jusqu'à à la modernité.
C'est ce qu'il a fait, il vous a raconté l'histoire, Léa,
pas
pour vous convaincre.
Non, ils m'ont dit rendez-vous
à Cargès.
Mercredi, voilà, à telle heure, je suis arrivée, et puis bon. En fait, j'ai découvert qu'il y avait Bertrand, Pierre-Antoine et des Argentins.
Ils savaient que vous chantiez espagnol également ?
Je ne sais pas.
Nous, on le savait, vous le saviez ?
Mais bien sûr, on sait tout.
Attends, on va le savoir. Et comment vous le vivez ce projet ? Parce que c'est très jeune. Hein. On salue le centre culturel Nadal et Rocchiccioli à Cargès, puisque vous avez fait une résidence de création là-bas et vous avez proposé pour la première fois ce spectacle là-bas. Comment vous avez vécu toute cette préparation et ces répétitions ?
Alors, disons que la rencontre, déjà très. C'est vraiment une surprise pour moi et c'est un cadeau surtout. Un gros cadeau, donc j'étais très impressionnée pour la première rencontre et j'arrivais même pas trop à chanter parce que c'était...
c'était trop.
Voilà, c'était trop. Et puis bon, après, ils sont vraiment très très sympas. Donc déjà, voilà, ce lien-là, c'est fait. Hein, moi, je les trouve géniaux, ils mettent tout le monde à l'aise et puis ils sont d'une simplicité incroyable. Et puis bon, moi je me suis détendue, j'ai un petit peu plus chanté, et puis voilà, hein, on a fait cette résidence magnifique, et puis ces concerts aussi.
Et vous allez vous retrouver sur la Tour Eiffel.
Oui.
Oui, voilà.
On est en discussion.
C'est pas sûr cette histoire.
Si, mais bien sûr.
Mais
non,
oui.
Non, dimanche on est à la Tour Eiffel.
Bon, dimanche, voilà, dans le salon Gustave Eiffel, si tout va bien.
C'est le contraire, Eiffel, mais c'est le contraire.
Mais non, on n'a plus envie de partir. Maintenant, c'est ça le problème.
Non, c'est important. Vous avez joué donc à Talon et vous avez joué à Porto Vecchio, à Cargès et ce soir à Bastia pour les musicales de Bastia pour l'ouverture de ces 32e musicales. Vous serez à Sartène au Centre d'art polyphonique donc demain et à Paris dimanche. On pourrait peut-être avec Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
Merci d'être
Buenas
avec
tardes.
Nous. Oui, je vais essayer. En espagnol, ça va être compliqué. En italien, oui, bien sûr, je parle très bien, Pierre-André, en italien. C'est connu. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez rencontré Bertrand ?
Quel est le tuo mente et ton esprit quand tu as rencontré Bertrand la première fois ?
Bertrand est un virtuoso, un grand musiciste, et además une incroyable personne. Donc, junta varias. Virtudes, oui. Capacidades de música y buena amistad, amici. Okay. Y nosotros estamos muy ilusionados por la prima volta en Córcega.
Mais c'est beau ce mélange d'espagnol et d'italien. Et du coup, on comprend très bien. Et oui. Donc c'est un grand virtuose que vous avez rencontré et les liens ont été très amicaux tout de suite, assez forts, une personne donc lumineuse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Aidez-moi Pierre-Antoine, c'est ça ?
Oui, lumineuse, impressionnante, mais il y a le côté musical, virtuosité, et le côté, il a parlé de vertu.
Flattez-moi encore.
Mon bon roi.
C'est un génie en fait, elles sont génio. Non. Ça a marché amicalement, humainement aussi, voilà. C'est ça qui était important.
Et si on jouait quelque chose ?
Allez,
qu'est-ce que vous voudriez jouer Nicolas.
Si. Ouais. Ok.
Ouais. Allez. Vous acceptez qu'on vous filme ?
Oui.
Je le dis à nos auditeurs. Si vous voulez.
Introduction.
Sur son bon profil, okay. Si vous
voulez. On le fait, c'est une sorte d'improvisation. Hein.
Donc vous pouvez aller sur ma page Facebook. Et vous verrez donc en direct ce qui va se passer.
improvisé quand même.
Formidable, Nicolas Gerschbert et Bertrand Cervera, un petit avant-goût de ce que vous entendrez ce soir, plus étoffé, avec plus de musiciens pour Caminando, pour l'ouverture des musicales de Bastia. Plaît-il ? Vous pouvez me parler, non, vous savez, après, comme après, tout non, se fabrique au fur et à mesure.
Non, mais parce qu'on peut vous jouer peut-être... Après, si vous avez
après,
envie.
Après, si vous le permettez. Est-ce que vous allez devoir partir? C'est ça ma question.
Non, on va rester avec vous parce que vous avez parlé de sensualité. Moi, je vais rester. Hein. Je veux rien rater dans cette émission.
Alors, on va écouter Michael Andréani qui, lui, est à Ajaccio, mais il est avec nous tous les soirs. Pourquoi vous vous levez d'un coup?
Je sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui.
Mais non, il est là-bas, il est à Ajaccio, derrière. Michael Andréani. Vous vous êtes intéressé à ces Corses qui sont partis pour revenir et parfois ne pas pouvoir revenir et parfois pour mieux revenir. Expliquez-nous ça.
Oui.
C'est un sacré lancement que je viens de faire.
Ouais, super.
Merci. Débrouillez-vous avec ça.
Oui, je voulais parler de ces Corses. La plupart Cap-Corsins d'ailleurs qui sont partis vers le soleil des Amériques pour connaître un avenir meilleur ou davantage de prospérité. Ça commence en fait dès le XVIe siècle, première trace des Cap-Corsins dans cette partie du Nouveau Monde, mais c'est surtout trois siècles plus tard que ces voyages vont s'apparenter quand même à une véritable vague. Il faut dire quand même qu'à partir du XIXe, les difficultés économiques se sont accrues en Corse. Les lois douanières du 1818 qui taxaient les produits sortant de Corse avaient particulièrement freiné l'activité commerciale des insulaires, notamment des Cap-Corsin, tandis que le vin, qui était la principale denrée exportée, allait être extrêmement fragilisé à partir de 1870, notamment par le phylloxéra de la vigne. Dès lors, l'immigration devient indispensable pour ce peuple entre mer et montagne qui va se tourner vers le Venezuela, les États-Unis, l'Argentine, Haïti, Saint-Domingue ou encore Porto Rico. Parmi ces immigrants qu'on compte donc par milliers, beaucoup vont s'embarquer comme marins pour payer le voyage avant de parvenir, pour certains, à ouvrir un commerce une fois à terre. Mais si souvent ce sont des motifs économiques qui poussent ces gens à prendre la mer, des médecins et des personnes jouissant déjà d'une certaine fortune décident quand même de tenter l'aventure américaine, tout simplement parce qu'ils ont un frère, un cousin ou même quelqu'un du village déjà sur place. Les Cap-Corsins ont fait notamment fortune dans les mines, en dirigeant des exploitations de canne à sucre ou de café, grâce au négoce aussi, ou encore par le biais même de quelques mariages, disons, judicieux. Allez, on va dire ça comme ça. Ces aventuriers seront peu nombreux aussi, entre 10 et 15% seulement à la fin du 19e à revenir en Corse. Ceux qui sont revenus tout de même feront ériger ces fameuses maisons, y palazzi di la Mérigagne, et des tombeaux aussi gigantesques et extravagants, qui tranchaient d'ailleurs, hein, qui tranchent toujours avec les habitations des paysannes qui sont restées au village. Héritage architectural considérable tout de même, signe extérieur de richesse et donc de réussite sociale, presque même une revanche sur la vie. Et si tous ceux qui ont quitté l'île n'ont pas fait fortune, ceux qui réussissaient en revanche envoyaient quand même de l'argent et faisaient travailler leur village. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Eh ben, on estime qu'à Porto Rico, aujourd'hui, il y a 1 million de descendants de Corse, même si le flux migratoire a commencé à se tarir vers la Première Guerre mondiale, avec une jeunesse qui a été massacrée, il faut le dire. Et pour ceux qui restaient, la voie la plus facile de l'administration dans les colonies, plutôt qu'un départ à l'aventure. Pour terminer rapidement, quand même, quelques figures majeures que je voulais citer, contemporaines ou pas, de Corses d'origine qui ont réussi. On retiendra Raoul Leoni, dont la famille paternelle était originaire de Murato. Il a été président de la République du Venezuela de 64 à 69. Enrique Beveragi, dont les racines se trouvaient, elles, à Castiglione. Il a été ministre de la Santé en Argentine à la fin des années 80. Santos Manfredi, Toussaint Manfredi de Sant'Andrea d'Uvozio, grand propriétaire terrien, éleveur, homme politique, philanthrope argentin, qui a d'ailleurs fait profiter la ville de Corte de sa fortune. Le stade et l'hôpital portent son nom. Et puis côté musique, deux noms à retenir notamment. Antonio Paoli, grand ténor de Porto Rico, fils d'un immigrant corse, est signé premier ténor par la Scala de Milan en 1910. Et puis,
originaire
plus contemporain
de Canary,
et toujours vivant, Eddy Palmieri, grand pianiste, compositeur, arrangeur, producteur.
Originaire de Canary.
Oui, 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 oui. Vous êtes fiers, vous êtes quatre Corsines, je le sais, tout le monde le sait. On le sait, on vous aime. Bref, Eddy Palmieri, grand musicien, fils de parents portoricains d'origine corse, qui est né, lui, dans le Bronx. Donc, vous voyez qu'on s'exporte plutôt pas mal.
Et il est venu il y a quelques années pour jouer en Corse, à Porto Latino. Ouais. Et il a rencontré ses cousins du Cap Corse. C'était une émotion incroyable. J'étais là en direct. Et surtout, le fameux cousin du Cap Corse a exactement le même visage que lui. Je vous assure, c'était une rencontre absolument étonnante. Merci beaucoup, Michael Andréani. Merci. Vous vouliez jouer encore?
Oui, moi je veux toujours jouer. Je sais faire que ça, vous savez. Donc,
vous savez ce qu'on a fait là avec Michael, hein? On a rendu un peu plus crédible votre projet.
Histoire, ouais.
Votre histoire.
Oui, oui.
Pierre-Antoine,
c'est vrai qu'on, non, mais c'est vrai qu'on a.
Moi, personnellement, c'est juste pour l'histoire de parler, sinon.
ça, c'est Pierre-Antoine.
Non, c'est juste pour l'histoire de Santos Manfred, elle est extraordinaire. J'ai revu un documentaire qui avait été fait, et il a créé une ville. Et c'est quand même, le parcours, il est original. Parce qu'à chaque fois, on disait Santos Manfred.
Mais qu'a-t-il fait? Ouais, qu'a-t-il fait?
Et il a créé une industrie extraordinaire, et c'est vraiment, c'est un des personnages vraiment qui a été marquant. Et on en a parlé avec Bertrand, et c'est vrai que c'était assez génial. Et bravo pour la chronique à Michael, super intéressant.
Merci.
Bravo.
Merci beaucoup, Michael.
Oui, c'est passionnant, mais on le savait un peu moins bien. Enfin, on a appris des tas de trucs aujourd'hui, mais on le savait un tout petit peu.
Qu'est-ce que vous allez jouer, Bertrand?
Alors, il y a deux solutions. Ou vous avez.
S'il faut appuyer sur le bouton A.
Non, on va vous faire un truc sensuel.
Allez, voilà, il ne fallait pas dire ce mot-là.
Infiniment, Nicolas Gerschbert et Bertrand Servera. Vous serez aux côtés de Léa Antona et de Daniel Astor Piazzolla et Mario Pablo.
Non.
Marianne
aussi. Bon.
Ouais. J'ai pas les bonnes lunettes.
Oui,
merci.
Louis Marianne.
C'est bon.
Mariano Pablo.
J'avais raison là.
Parce qu'on l'appelle Mariano.
J'ai même enlevé les lunettes. Comment vous l'avez construit ce programme?
Justement, par rapport à l'histoire de ce que l'histoire qu'on imagine du tango, c'est-à-dire qu'on est parti de ces instruments de percussifs, puisque Daniel Piazzolla est lui-même batteur. Donc on est parti de ces instruments de percussion et d'une
et
tradition.
Petit-fils d'Astor Piazzolla.
Petit-fils d'Astor Piazzolla. Et donc on est parti de ces percussions, remonté jusqu'à la tradition corse, la mauresque, et après jusqu'à ces rythmes, ces moqueries, ces rythmes un peu bizarres, cadencés, mais un peu décalés aussi, jusqu'à la musique. Des années 60, en fait, depuis du nouveau tango, quoi. C'est-à-dire, puisque Piazzolla a réinventé le tango, et même à l'époque, maintenant, il est porté au nu, mais ça a été très difficile pour lui, puisque là, les traditionalistes, entre guillemets, du tango disaient, mais non, ça, c'est pas du tango, ça va pas du tout, voilà. Parce qu'il y a eu les aficionados de Gardel, qui étaient, ça, c'était du tango chanté. Vous savez qu'il était toulousain, Gardel, et c'est un dieu en Argentine. Hein. Donc c'est un tango particulier, parce qu'un tango chanté. Et donc Astor était bandoneoniste, et il est parti à New York avec ses parents. Donc il y a toute cette influence de new-yorkaise. Et après, il est allé faire ses études de composition à Paris, chez Lili Boulanger. Comme beaucoup de grands compositeurs, finalement, on appellerait ça la world music maintenant, Quincy
Donc,
Jones.
On lui reprochait d'être trop moderne, oui, en réalité, oui, oui. Et d'avoir fait un pas de côté de ce tango, oui, traditionnel.
Complètement, et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec des chanteurs comme Léa, qui est justement prête à s'ouvrir à ses influences, et je trouve que nous, en tant que musiciens d'origine corse, on se doit aussi de faire vivre nos traditions. Et avec qualité, enfin, évidemment. Et c'est pour ça que je parlais de la voix de Léa et de sa capacité à chanter des chants autant espagnols que corses, que italiens.
Vous pouvez chanter, Léa, à un moment donné dans l'émission, si vous avez envie, que vous n'êtes pas trop épuisée par cette tournée, toutes ces répétitions.
Peut-être.
Si vous en avez, peut-être, c'est pas sûr. Si vous en avez le désir, vous pouvez discuter entre vous et.
Non, mais au contraire. Non, mais c'est tellement merveilleux quand elle le fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est justement cette jeune génération de chanteurs et de musiciens corses qui ont le devoir et qui le font de bousculer la tradition. Voilà. On a une tradition, oui, c'est très bien, mais
ne la mettons pas sous cloche.
On n'est pas un musée. Ouais. Voilà.
Nicolas. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous qui êtes musicien, allez, avec une formation classique et puis plus tard musicien de jazz, comment le tango s'inscrit dans votre travail musical?
El tango es como natural viviendo en Buenos Aires es para un músico algo normal. Si bien el tango hoy no es la música de Buenos Aires como lo fue en los años 40, la Golden Age, la década de oro, pero es muy importante. Es muy importante porque es nuestra identidad cultural. Y normalmente uno empieza tocando música clásica. Me gusta mucho la improvisación, el jazz, pero el tango está en el aire. Está en el aire.
Bon, vous l'avez compris, ça fait partie d'eux, c'est naturel pour un Argentin, quelle que soit sa formation musicale. Et c'est à part, vous disiez, Pierre-André,
c'est leur identité.
C'est leur identité, ouais, tout simplement.
C'est musicalement, c'est assez impressionnant parce que, en fait, quand ils jouent le tango, j'ai envie de dire, ils sont en même temps en avance par rapport à la pulsation, mais en même temps, ils sont au fond du temps. Vous savez, au fond du temps, c'est-à-dire qu'ils sont presque en retard. Mais en même temps, ça avance. Et en fait, c'est une technique de jeu qui est absolument impressionnante. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de jouer tango avec d'autres musiciens qu'eux, parce qu'ils ont vraiment ça dans leur trip.
Et concernant les arrangements, il a fallu donc arranger tous ces morceaux.
Ça, c'est Monsieur Nicolas qui a tout arrangé. Et qui a fait ce boulot-là en amont, parce que c'est un travail qui justement on a commencé à répéter au début de la résidence, mais eux ils ont répété à Buenos Aires, ils m'ont envoyé les partitions, on a envoyé les partitions à Léa. C'est un travail de longue haleine qui se prépare depuis plusieurs mois.
Nous sommes descendus dans la rue, n'est-ce pas, Cécilia?
Tout à fait.
Pour savoir si les gens dansaient encore le tango?
Eh bien oui, parce que...
C'est une musique à danser, on le rappelle.
C'est un classique des danses de salon.
Maintenant.
Maintenant, voilà. Et c'est vrai que, me concernant par exemple, quand je pense tango, je suis désolée, ça va peut-être pas vous plaire, mais je pense effectivement à Danse avec les Stars. Je sais, c'est pas bien, vous pouvez me jeter des pierres.
Mais pourquoi? Vous
non,
pensez à ce que
mais
vous voulez,
je veux dire, ça, voilà. Alors. Je ne pense pas à l'origine, effectivement, non, forcément du tango. Et alors, je suis nulle, hein, je vais vous l'avouer. J'écoute les revendications du jury, le pied, la main, donc je peux me la péter si je veux, dire non, le rythme ne va pas. En revanche, je sens bien que dans mes veines, c'est plutôt Vescovato que Buenos Aires. Néanmoins, c'est vrai qu'en Corse, on a quand même cette culture du tango, notamment dans les bals populaires. Et j'ai voulu en parler, effectivement, avec les Bastiais dans la rue. Et voici ce qu'ils m'ont répondu.
Oui, beaucoup, parce que j'aime danser le tango, le passo, la valse, tout. Pour danser le tango, la comparsita.
Oui, le tango, ça m'évoque la réjouissance, la joie de vivre, le mouvement. Non, j'aime bien danser le rock un peu. Tango, non, parce que ça me... c'est très technique apparemment.
Non, pas du tout. Ça veut dire que j'ai l'air vieille. Pas du tout, ça ne me tente pas. Une danse pour les personnes âgées. Danse de salon, d'Argentine. Et un peu de sensualité quand même. Dans les noms Carlos Gardel. Disons quand j'étais plus jeune, les danses plus modernes. Mais même maintenant, je suis plus sensible à du hip-hop qu'à du tango.
Moi, je suis vieille maintenant, je n'ai pas plus l'air de danser. Ah oui, quand j'étais jeune, oui. J'avais 20 ans.
Vous avez dansé le tango?
Oui, maintenant je m'en souviens même plus. Hein.
Oui, j'aime bien, ouais. Bah, tango, c'est une danse. Hein. Je sais pas danser, je suis un très mauvais danseur.
Oui, j'aime le tango, ça m'évoque la sensualité.
Il y a 30 ans en arrière.
Ouais.
Vous dansiez le tango?
Tango, le slow, ouais. Et je suis très fort même. S'il y a un slow ou un tango, je le danse quand même. Il y en a, hein. Il y en a un paquet. Hein. Petit Papa Noël. Ouais. La chanson de Petit Papa Noël, c'est un tango.
Le tango, ça m'évoque mes parents. Hein. Voilà, mon père aimait bien danser le tango. Non, moi non, je l'ai vu souvent danser. Mais bon, moi non, je ne sais pas le danser. Hein. Parce que moi, je suis l'époque du twist. Le plus beau de tous les tangos du monde. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
C'est magnifique, Cécilia, merci.
Mais merci à vous.
Pour le slow, le twist.
Le slow, le twist.
Et le plus beau tango du monde,
et
merci.
Et Petit Papa Noël.
Et Petit Papa Noël qui est un tango, je l'ignorais.
Et personne ne parle du tango corse, quand même. C'est Fernandel qui l'a chanté.
Mais je suis très surprise. Nous, on était sûr qu'on allait entendre ça.
Ah,
ouais.
Oui, parce que qu'est-ce que c'est drôle, ce...
Mais justement, il se moque des Corses.
Non, mais il se moque des Corses, mais ouais. Alors justement, il faut le revoir. Parce qu'il se moque des Corses, mais avec un humour qui fait qu'il se moque,
oui,
pas, en fait.
Qu'il y a de la tendresse.
Mais
ouais,
oui,
ouais,
puis il fait des petits clins d'œil, des trucs, c'est génial.
Vous vous êtes concerté ou toujours pas? Si vous faut une guitare, moi je vous emmène un guitariste, hein.
Je me suis concertée, moi, ouais, et moi-même.
Nicolas, tu pouvais faire...
On peut faire Roméo Moulin, une partie, non?
Allez.
Allez.
Tu peux même jouer avec eux.
Il faut toujours qu'il s'incruste. Hein,
d'argent. C'est une histoire d'argent, elle m'a fait signe. Donc bon, ok. Je vais gagner un peu de sous sur le coup.
Et est-ce qu'on peut dire
quelque chose pour ce soir, bien sûr,
c'est pour dire qu'il y avait Anima Tango qui chantait dans le péristyle du... qui dansait, pardon, dans le péristyle du théâtre entre 19h et 20h. Pour ceux qui aiment vraiment le tango danser avant le concert, c'est une bonne... Ils embouchent si vous voulez y aller.
C'est une invitation. Je suis piètre danseuse, hein, mais...
Non, mais justement, ils apprennent, c'est super.
Et puis c'est pour les jeunes aussi,
c'est pas
pour
les choses dans ce studio.
Oh là là,
allez,
ouais.
C'est comme vous voulez.
Accanto al mio giardino parlo di tant'anni fa. Mi ricordo di un mulino con fagia che canta. Uguadello che passava si piantava a chiacchierare, non l'aiutava, l'aiutava a macina. Un mio mulino, questa canzona in Merisana, come ne posso più scura da, beg una fatta tutta l'ada, per me si metti a ballare. Non tu cammino d'un mio mulino, che non c'è sa. Ma lo vogo a partir Padou et vous restez d'Iguassou. O Guadeluz é cicato, a rota não gira plus. O Burton é tout à perto, não se sente più cantar. E o mulino é certo, hoje me vai de vida. O meu mulino.
Salut Nicolas Anton à qui a commenté cette vidéo
ah.
De façon extrêmement
qu'est-ce qu'il a mis
non sympathique. Ah. Voilà. De frère de Léa, on l'embrasse très fort évidemment.
Moi non.
Ce que vous avez entendu, eh bien, c'est un avant-goût de ce qui se passera ce soir pour l'ouverture des 32e musicales de Bastia. Je vous remercie infiniment d'être revenu et d'avoir joué pour nous. On va appeler Marc-André à Castellane. Alors ici tout se passe voilà comme ça. On a prévu les choses difficilement, mais
je voulais quand même remercier Raoul Locatelli qui nous a évidemment invités. Ça aussi c'est une rencontre. Et donc je voulais dire que ces événements ne se font que par rencontre de façon incroyable. Et voilà, donc c'est lui qui nous invite aussi ici. Et moi je retrouve ma ville de naissance. Et c'est toujours un immense plaisir de revenir ici, de sentir cette mer de ce côté de la Corse, voilà.
32 ans avec les plus grands artistes du monde entier qui sont passés sur la scène du théâtre de Bastia grâce à Raoul Locatelli qui fait un travail de fou et vous avez bien raison de le remercier.
Il a fait venir Astor Piazzolla ici.
Et de le saluer. Et Astor Piazzolla est venu ici.
Richard Galliano. Absolument. C'est le trait d'union. Voilà.
Vous allez céder votre place à Marc-André Castellane, surtout qu'il est très grand ce monsieur. Et vous allez vous installer juste à côté. On vous raconte tout ce soir dans cette émission. Je ne sais pas si Pierre-Antoine Berrette il va tenir pour la soirée. complètement.
On a fait venir des produits un petit peu.
Épuisé. Marc-André.
Bonazère. Bonsoir à tous. Alors oui, c'est bon. Déjà, j'ai pris une guitare.
Vous avez pas un petit bonsoir spécial pour Léa ?
Ah Léa, j'ai eu le bonheur de l'accompagner à plusieurs reprises et voilà, c'est une expérience quoi.
On s'en remet ou pas ?
Non, mais si on se sent tout petit derrière son instrument parce que il y a cette espèce de voix qui s'élève, qui est limpide, qui part et on a toujours très très peur par la moindre note de gâcher ce qui est en train de se passer. Je l'ai perçu un peu comme ça, donc je me ressens extrêmement humble dans l'accompagnement. Alors voilà, de la Corse à Buenos Aires, je vais essayer de démontrer que c'est quand même une certaine forme d'évidence.
On va vous aider encore pour votre projet.
On va commencer par une petite histoire. Michael a brillamment parlé, donc d'Idouti Stigour, si il saute partout, dit d'Amarella, qu'on traversait cet océan, ce que ça représentait à l'époque. Une histoire de la vie du groupe de Cantubo Bulugurso à l'époque. Quand en tournant le monde un soir à Paris, il me semble, il rencontre un homme qui va les voir, qui leur dit, écoute, ma bede rendu da Mozzidellina. Cet homme donc parle un corse remarquable de la région de Castagniccia, et cet homme a passé sa vie en Argentine. Il est accompagné de son fils qui est typé indien.
C'est fou,
c'est quelqu'un qui était donc et son fils parlait espagnol, ne parlait pas un mot de français, et parla un corso baisano e castagniccio, igual un accento che cantava così. Et il y avait eu cette transmission, et c'est pour montrer un petit peu les étranges voyages qu'a pu faire la Corse, notamment vers l'Amérique latine. Et on va faire le lien entre cette chanson donc à Lettera d'Argentina, qui est née de cette histoire, écrite par Cecchino Franchi, l'arrangement musical, on retrouve un musicien, vous connaissez il Quartet Cedron d'Iron, con César Strocho. César Strocho, donc, qui vient, qui enregistre notamment...
Nicolas dit oui de loin. Oui.
le très fameux solo de la...
Bien sûr.
Ok, c'est cette feinte et ce très très joli solo de Companero. Il revient, il participe à beaucoup d'albums de Pedro Guelfucci et il enregistre le solo de bandoneon. Désolé. De bandoneon d'Aletera d'Argentina. Donc, on arrive à ce lien entre la musique sud-américaine et la musique corse. Un lien évident parce que en son temps aussi, la musique corse traditionnelle en elle-même était très jolie d'un point de vue vocal, esthétique, mélodique, mais très très pauvre d'un point de vue rythmique. Et je pense que d'un côté, les rythmes que portait l'Equila Payún à l'époque, cette manière de porter un chant engagé de manière très rythmée, a beaucoup nourri l'idéal. D'un autre côté, le tango... Parce que il y a un autre aspect des choses, c'est que Indino Stribaez ya yante bala wanu dango avant le riacuisto. C'est une musique à danser et cette musique, eh bien, diragola di Indino Stribaez, avec notamment deux morceaux qui sont un petit peu des morceaux phares du répertoire corse, qui sont tous les deux signés. Comme Mio Mulino, il me semble, par Domenico Marfisi d'Oretta, A Canzona per Maria. Marie, je ne vais pas vous faire un dessin. Et puis.
In un tango l'ultima strinta. Ah, magnifico.
Domani cari se non balleremo più. Vieni in fondo di questo rigore. E vai pure.
Un fuoco ardente che affattiamo gioventù. Lasciami cogliere dolore come un fiore. In questo mondo la mia passione sei tu. Venia balà, la vita è troppo amara. Una chitarra sento suonare. Vieni qui in un'ultima strinta. Vicino a te voglio dimenticare. Una sera la tua promessa vinta. In un mio corre a sapio t'ungana. Non ti non dà e fammi di non crede. Che ho sognato che tu sei sempre a me.
In ludo gore, a giuverma da vede, a giuverdadu,
lo mio amore per te.
Zuan, zuan. Voilà.
Et dopo?
Donc, tout ou quoi perdu, qui on retrouve vraiment tout un tas d'évidences. C'est une évidence humaine de par le déplacement des populations. C'est une évidence musicale de par les influences qu'a eu la musique corse pendant le riacuisto et encore plus étrange avant le riacuisto, donc de la Cuerza Buenos Aires et Oguisoca Bigursino Zisquez. Ça me parle parce que l'histoire qu'a raconté notamment Michael con tutti sti corsi, c'est l'histoire d'une grande partie de ma famille.
Et de la mienne également.
C'est pas vrai.
Eh, oui. Parce que je suis de Cisco aussi. Dès qu'on a l'occasion de le dire.
Attendez Marie, vous êtes de partout en fait, si
oui,
je comprends bien.
Oui, il y a chaque fois. Ouais,
merci Léa. Hein.
Merci Léa de souligner ce petit trait de caractère que j'ai, de vouloir être de partout.
Et Camille
de la Corse à Buenos Aires, c'est ce soir à 20h30 pour l'ouverture des 32e musicales de Bastia. C'est l'émission de la flagornerie ce soir. Et nous rappelons qu'il y aura de la danse, Pierre-Antoine.
Oui, je disais, il y avait Anima Tango qui dansait tout à l'heure vers 19h, entre 19h et 20h avant le
mais
concert.
Mais toi aussi, tu y es, Pierre-Antoine.
Oui, je vais danser. Ah ben, c'est mon gros point fort, la danse. C'est bien connu.
Merci beaucoup à tous. Merci Nicolas d'être venu. Merci Bertrand. Merci Léa.
Merci
Marc-André, à Michael et Cécilia d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Astor Piazzolla qui revisite son classique de son répertoire, Liber Tango, qu'il a composé en 1974. Il est ici en direct, accompagné par les musiciens Thomas Gubic à la guitare, Ricardo Sanz à la guitare basse, Gustavo Bettelmann au piano, Luis Ceravolo à la batterie, Osvaldo Calo à l'orgue électrique, Daniele Piazzolla au synthétiseur et Luis Ferreira à la flûte. Cet enregistrement, il est absolument mythique et ça va illustrer tout ce qu'a dit Bertrand Cervera sur le travail d'Astor Piazzolla.
Bleu RCFM.
Les éditions Radio France présentent le livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
Que dire de sa vie ? Elle est la vie même, un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro.
Plongé dans l'itinéraire hors du commun de cet écrivain qui incarne le XVIIIe siècle et s'autorise toutes les libertés. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsenna, un livre et un livre audio France Culture.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance